Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.fm, la radio des bonnes ondes, dans l'émission L'art, c'est pas du luxe. Ce jour, en compagnie de Denis Vaginet et Alain Moreau, nous allons discuter et échanger avec André Robillard. Bonjour André Robillard.
Bonjour André, alors tu salues Radio B, André, tu leur dis bonjour là aux gens de Bourg-en-Bresse.
Je salue Radio B.
Ouais, et puis les gens de Bourg-en-Bresse.
Et de Bourg-en-Bresse. Ouais.
Donc André Robillard, vous pourriez nous dire en quelques mots votre parcours de sculpteur, de peintre, de dessinateur.
Oui, oui.
Oh ben ça, il faudrait plusieurs émissions, hein, en fait, nous dire son parcours. Disons, André, tu as 88 ans, t'as, en 1964, tu as fait ton fusil, donc ça fait quand même pas mal d'années que tu es.
Oui, c'était le premier fusil qui avait commencé en 1964, oui, en carte postale.
En fait, tu as commencé en 64 à être un vrai artiste d'art brut.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, bah, tu es un peu une légende. En tout cas, tu es une vraie figure de l'art brut.
Oui, oui.
Et en 64, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tu étais où en 64? Tu habitais où?
En 64, j'habitais au centre, en mars 64, à l'hôpital psychiatrique Fleury-les-Aubrais, à Orléans.
Voilà.
À 7 km, au centre hospitalier.
Voilà.
Georges de Maison.
Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que tu habites toujours au même endroit.
J'aimerais mes 88 ans passés, j'ai toujours habité au même endroit, au centre hospitalier à Fleury-les-Aubrais.
Voilà.
Oui.
Et donc, ce qui se passe, pourquoi on est là, c'est parce que tu es devenu un artiste majeur de l'art brut, alors que tu aurais pu passer complètement à côté,
oui.
Parce qu'un jour, en 64...
Ouais, je vais vous poser une question.
Ouais.
Par exemple, j'aurais pas été au centre hospitalier. Ça aurait pu arriver. J'aurais été à l'extérieur, et évidemment, il y aurait une chose qui aurait été une autre direction. J'aurais certainement pas été connu par Jean Dubuffet, ou d'autres personnes, ou découvert par un bishop qui s'appelle Paul Renard,
ouais.
Et après, il y a eu Roger Gentis.
Ouais.
Et alors, évidemment, j'aurais pas été connu à ce moment-là. J'ai eu le fait du hasard que je me suis trouvé là au centre hospitalier, un genre de maison, mais il y a des années que j'étais là-haut, et puis ça m'a fait connaître Jean Dubuffet, des choses qui m'a fait connaître. Ça, c'est le fait du hasard, c'est marrant. Parce que j'arrêtais à l'extérieur, c'est peut-être poli, ça aurait été pareil, j'aurais peut-être pas connu. J'aurais pas été connu. Évidemment, si j'étais pas rentré au centre hospitalier,
et ben
ça
voilà.
Aurait pu arriver aussi. Ça.
Oui.
Alors, ça m'a découvert, en étant des années, ça m'a découvert quelque chose. Quand
parce qu'il faut dire,
c'est marrant.
André, il faut dire aux gens donc, que tu étais au centre psychiatrique, Georges de Maison à Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans.
Oui. Mais ce qu'il y a, j'étais hospitalisé parce que j'avais été chez mon père. Et puis, vous savez, j'étais un peu nerveux, puis je cassais les chaises. Puis je savais que mon père, il m'a fait hospitaliser au centre hospitalier à Fleury-les-Aubrais, quoi,
oui.
Que je suis là, que j'habite. Puis voilà, comment c'est comme ça que c'est arrivé, quoi.
Oh.
Puis après, je vais vous dire, depuis le temps que je suis au centre hospitalier, j'étais presque élevé, je vais vous le dire, parce qu'il y a des années que je suis là, disons.
Oui.
Bah, oui, oh là. C'est pas évident, hein.
Et donc, oui, André Robillard, vous avez cité M. Renard et aussi Roger Gentis, qui est une figure hein, en tant que psychiatre. Mais ce que vous nous dites, c'est que la psychiatrie était un lieu d'accueil, un lieu bienveillant,
oui, oui.
Où chaque personne qui était accueillie est...
Alors là, si je peux me permettre, il n'a pas dit ça. On est en train d'extrapoler sur les qualités de la nouvelle psychiatrie, ce qu'il faut simplement dire, parce que ce n'est pas complètement le sujet, mais le sujet, il est là, c'est André
Robillard. Oui, oui.
Et juste dire, effectivement, Roger Gentis, c'est effectivement un des voilà, acteurs de cette nouvelle psychiatrie, puisqu'il n'est pas... Il est passé par Saint-Alban, André, hein, il est arrivé de Saint-Alban.
Il était Saint-Alban, et après, est-ce qu'il y a eu... Après, il est devenu Spichotte au centre hospitalier ouais. Où j'habite.
Voilà. C'est ce que je voulais souligner.
Donc, simplement dire qu'André, quelqu'un qui a eu de la chance,
oui.
Il a eu de la chance, mais il l'a provoqué.
Oui,
il a eu la chance parce qu'il a du talent.
C'était pas tout facile au départ, oui.
C'était pas facile. C'est pas facile. Il a eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes.
Voilà. Oui,
et de tomber dans un hôpital
où
on considérait la nature humaine et qu'on avait une démarche humaniste. Et donc, il est tombé sur des gens qui étaient des humanistes.
Tout à fait.
Et qui étaient ses interlocuteurs, ses médecins. Mmh. Et aussi...
Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il s'intéressait peut-être beaucoup à ce que je fais.
Oui, bien sûr, bah, la qualité de votre création, oui, bien sûr.
C'est pas dit que ça arrive bien tout le monde. Ça.
Mais quand même, parce que le début de tout ça, c'est quand même une histoire de fusil. C'est-à-dire
oui.
qu'en 1964, alors que tu étais quand même depuis belle lurette dans cet hôpital psychiatrique, tu étais comme au début, tu étais dans une école.
Hein? Ah oui, j'étais à Bourneville-Séguin, j'étais à l'école. Mon père m'avait amené à l'école pour les enfants pour écrire, raconter.
Oui. Vous savez, dans, voilà. Donc il se trouve pour dire aux gens que dans ce grand hôpital, il y avait une école au début. André est allé. Pas dans l'hôpital, mais dans l'école, qui se trouvait dans l'hôpital.
Oui.
Et ensuite, comme il dit, il cassait des chaises, il est un petit peu nerveux.
Ben
certainement beaucoup plus qu'un petit peu, mais en tout cas, il était un peu nerveux. Et son père l'a fait rentrer, oui. en fait, comme patient, oui. malheureusement. Oui. Et là, il est resté comme patient, il est resté un certain temps hospitalisé, en quelque sorte.
Bon, Bourneville-Séguin, c'était l'école. Voilà. Il y avait les filles et puis les gars, oui.
Voilà. Et donc, c'est l'école. Après, tu es rentré comme patient. Mmh. Et après, ça, c'est une période assez longue qui n'est pas la période la plus sympa de ton existence. Mmh. Mais après, on s'est aperçu que tu étais un sacré gars sportif, costaud, etc., et que tu étais bien capable de faire l'ouvrier.
Ah oui.
Donc, tu es devenu ouvrier dans cet hôpital.
J'ai travaillé à la station d'épuration à côté de la forêt, moi, de l'hôpital, là, c'est loin. Et puis, j'ai nettoyé les ordures. Il y avait une brouette, il y avait tout ce qu'il faut pour tout nettoyer. Et puis mon patron, c'était Raoul Deville, c'était mon patron à ce moment-là. Et j'ai travaillé, j'ai été 15 ans à la station d'épuration. 15 ans, c'est que j'étais jeune, avant, maintenant je suis en retraite, mais avant, c'est quand j'étais jeune. 15 ans, à la station, mais je faisais partie de la chaufferie. Puis tous les matins, à 8 heures, j'allais au boulot, quoi.
Comme tout le monde,
j'allais au boulot, je pouvais aller à 8 heures pour aller au travail. Prenais mon vélo, puis j'allais à la station d'épuration, là-haut. Aller faire mon travail comme tous les jours, quoi. Puis voilà.
Alors cette station d'épuration, il faut dire aux gens, il faut expliquer,
oui.
Cet hôpital de Fleury-les-Aubrais, hôpital départemental, c'est un énorme hôpital.
Ah oui.
Et quand il dit qu'il prenait son vélo, c'est parce qu'il avait 3 km à faire pour aller même au-delà, à l'autre bout de l'hôpital,
oui.
en bordure de forêt.
Et
chose est importante, parce qu'en bordure de forêt, il y avait la forêt,
oui.
et donc il était intéressé par tout ce qui se passait dans la forêt.
Et dans la forêt, votre père était garde forestier. Si
alors, il était garde forestier.
Ça,
avant.
C'est autre chose. Il n'était pas garde forestier à cet endroit-là.
Mon père, il a travaillé dans les fermes.
Il n'était pas garde forestier.
Il travaillait
dans les fermes. Il était paysan.
On
va dire. Toi, tu es un fils de paysan, André. Hein, donc, cet environnement-là, de la nature, de la campagne, c'était ton quotidien. Les bêtes, les vaches,
les animaux, les
poules, tout ça, c'est ton environnement.
C'était
l'époque. Donc, il y a ton père. Ça, c'était relativement important, parce que ton père t'a beaucoup marqué, même des fois il tapait un petit peu aussi.
Ah oui, ouais.
Peut-être que tu le méritais, mais il a été un petit peu rude. Tu fais partie de cette génération où c'était rude quand même, la vie à la campagne, on faisait pas de cadeaux. Hein.
Oui.
On avait le coup de pied au cul, c'est facile, hein, si je peux me permettre de dire
mais
ça.
Mais il y a eu des générations qui sont un petit peu différentes, hein, ça c'est pas facile. Hein.
Donc,
ce qu'il y a maintenant, hein,
je... voilà, toi, tu es de cette génération-là.
Oui. Et donc, à partir de quel moment, à travers son travail et aussi ses pérégrinations dans l'hôpital, il a pu trouver tous ces matériaux qu'il a pu assembler?
Alors à partir de quand comment...
Moi, j'ai commencé à travailler à la station d'épuration, j'ai commencé à faire mon premier fusil en travaillant à la station d'épuration. Voilà.
C'était en quelle année, André?
Hein?
C'était en quelle année?
Oh, c'était en mars 64, dans cette époque-là, oui. Quand j'ai...
Ouais.
Mais j'ai fait ça pour histoire de bricoler, quoi.
Oui.
Dire que j'aurais pu devenir artiste, je ne le savais pas, ça.
Ouais.
Je bricolais comme ça. J'ai fait un fusil, c'est marrant. Hein.
Mmh.
Et puis, j'aurais jamais cru un jour, pour m'occuper, quoi. J'avais un bout de fusil. Puis c'était au moment que j'ai construit ça, c'était au moment. Même Raoul Deville, mon patron, il a même découvert mes fusils. Avant, il était déjà connu avec les fusils, déjà. Mon patron, mon ancien patron, oui. Oui. J'étais déjà connu avant que M. Paul Renard, mon ancien médecin qui était venu. Il l'a reconnu après quand il est mis spéciante. M. Paul Renard, il était venu de la Guadeloupe en 59-69. Il venait de là. Il a porté cette spéciante à l'hôpital. Et puis ça fait que, bonjour, le fait du hasard. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux fusils, dis donc. Mais j'ai été surpris par moi-même. Vous savez, un spéciante, il est médecin. Hein. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Et il a découvert deux fusils. Et puis après, c'est pas ce qu'il a fait. Et bien, il a trouvé le moyen d'emmener ça à Jean Dubuffet, le grand peintre. Et puis Jean Dubuffet, et bien, ce qu'il a fait, il a emmené ça à la collection d'Arbut à Lausanne. Mmh. Voilà.
Voilà, c'est tout simple. Mais dis donc, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Là. Tout le monde se pose, mais qu'est-ce qui t'a pris là, dans cette station d'épuration alors que tu ramassais des trucs de récupération? Qu'est-ce qui t'a pris de faire un fusil comme ça?
Je sais pas, ça, pour m'occuper comme ça. Mais sans pas en parler de fusil d'hier ni rien. Fusil. Comme j'aurais pu faire autre chose, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu arriver, ça. Ah oui, parce qu'on ne m'aurait pas connu si j'avais pas fait de fusil, on ne m'aurait pas connu avec mes fusils.
Absolument.
On aurait pu me connaître si j'avais fait des dessins, peut-être après ça aurait été différent, ou autre chose, qui n'aurait rien à voir avec ça, ça aurait pu arriver.
En tout cas, tu as fait des fusils, il faut dire que tu n'en as pas fait beaucoup.
Oui.
À l'époque, tu n'en as pas fait beaucoup, tu en as fait trois.
Oui, oui.
Trois fusils.
Oui, mais attention, au départ que j'ai commencé, il y en avait pas mal, hein, le début, oula.
Ouais, mais...
Ah ben maintenant, j'en fais moins, bien
ouais,
sûr.
Ouais, mais attends, André, en 1964... Tu as fait trois fusils, simplement trois fusils.
Oui, trois fusils.
Heureusement, quelqu'un, Paul Renard, les a emmenés à Jean Dubuffet.
Ah oui, bien, à Jean Dubuffet, oui.
Et puis, t'as arrêté pendant...
Oui, je me suis arrêté.
T'as arrêté pendant 12 ans.
Oui, 12 ans.
Pendant 12 ans.
Ah oui, dis-moi, oui.
T'as arrêté, et qu'est-ce qui se passe en 76? Tu reçois quoi? Tu reçois...
Eh bien, je reçois, il y avait le courrier, il y avait une personne de l'hôpital, il venait me voir pour voir mon travail, hein. Un ouvrier de l'hôpital, il me voit, puis d'un seul coup, il s'amène, j'arrive à la station, il m'amène mon courrier, dis donc. Et puis d'un seul coup, il est dans une enveloppe, puis qu'est-ce que je vois? Je vois des cartes postales, dis donc. Mais je reçois du courrier, des fois, il y a des gens qui m'envoient des cartes postales, mais j'aurais pas cru que ça arrêtait ça, que s'il y avait dedans 12 cartes postales de mars 64 de mes fusils.
Et qu'est-ce qu'il y avait?
Et ouais. Puis il y avait des cartes postales, et puis bon, c'est Mario Del Curto qui les a, comment qu'on appelle ça?
Il les a photographiés.
Oui, photographiés, oui, voilà, avec mon nom derrière, tout.
Donc, je sais pas, mais attends, toi, t'étais dans ton coin, là-bas,
à
travailler à la station d'épuration.
Oui, évidemment.
Et tu découvres, alors que tu t'y attendais absolument pas, tu découvres une carte postale.
Oui.
C'est important, une carte postale.
Ah oui, c'est important.
Une carte postale, t'as les églises, les monuments, etc.
Ça, oui.
C'est essentiel qu'il y ait une carte postale. Et sur la carte postale, il y a ton fusil.
Oui, il y a mon fusil.
Mais tu devais être étonné, non?
Oui. Marqué à mon nom, mon fusil.
Avec ton nom, ton nom.
Il m'en avait envoyé 12. Dans une enveloppe. Oui.
Voilà. Et après, donc, t'aperçois qu'il se passe quelque chose, que des gens, tes fusils, on les a pas mis à la poubelle, qu'on les a gardés et qu'on les a mis dans un musée. On t'explique que c'est dans un musée. Mmh. Et donc, les gens du musée, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'invitent.
Ils m'invitent, voilà. Oui,
qui c'est qui t'invite?
Ça m'a fait connaître du monde.
Et qui c'est qui t'invite au musée de Lausanne?
Ah ben, c'est Michel Thébault, ça oui. Mario Del Curto, Geneviève Roulin à ce moment-là, Francis Gabin, Marguerite Gabin, Lucienne Perry et Sarah Lombardi maintenant. C'est des gens que j'avais connus avant, ça. Ah oui, bien avant.
Enfin, surtout Michel Thévaux.
Même s'ils sont en retraite, ils les ont connus bien avant, des années avant.
Donc c'était Michel Thévaux. Donc Michel Thévaux, il t'invite au musée de Lausanne.
Au musée de Lausanne.
Et qu'est-ce que tu découvres au musée de Lausanne? Qu'est-ce que tu vois dans ce musée?
Eh bien, je vois des fusils. J'ai fait des spoutniks, tout ça.
Non, mais tu vois tes fusils, attends, excuse-moi André, mais tu vois tes fusils, à l'époque il y en avait trois, et tu vois d'autres artistes aussi.
Ah oui, Émile Ratier, tout ça, Auguste Forestier, Maisonneuve, tout ça, j'ai connu pas mal d'artistes que j'avais connus au musée de l'Art Brut, oui.
Voilà, et qu'est-ce qu'on te dit là-bas? Qu'est-ce que tout le monde te dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, faut continuer, non?
Bah, il faut continuer, comme dit, oui.
Et alors, qu'est-ce que tu fais?
Et ben, après, j'ai continué.
Ben voilà.
Oui.
T'as continué.
Mario Del Curto, comment tu l'appelles, Michel
Thévaux,
il m'a dit faut pas vous tourmenter, vous avez, faut continuer, qu'il m'a dit. Il m'a encore encouragé pour pas m'arrêter.
Et alors là, tu y vas de plus belle, là. Tu recommences. T'avais arrêté pendant 12 ans.
Ah oui.
Et là, tu te mets. Qu'est-ce que tu fais comme œuvre?
Il y a une personne qui est venue et il m'a découvert que j'avais fait 12 déjà, 12 fusils.
Tu te fais 12 fusils, tu fais pas que des fusils, tu fais quoi?
Ah, je fais des dessins aussi. Je fais des soucoupes volantes.
Tu fais des soucoupes volantes.
Et je dessine des planètes aussi. Oui. Les planètes Jupiter, Saturne, Uranus.
Et tout ça.
Neptune.
Et tout ça, c'est le musée de Lausanne qui vient les chercher.
Les chercher, oui.
Et tu deviens des artistes principaux.
Oui, oui. J'avais déjà fait des spoutniks avant, des spoutniks, et j'ai même fait deux bateaux. Oui, c'est marrant, ça m'est jamais arrivé, deux bateaux qui sont au musée. Ils sont venus me chercher avec un camion de Lausanne. Il m'avait averti le jour qu'il allait me chercher, oui.
Et dites-moi, André Robillard et Alain Moreau, lorsque je suis allé il y a 30 ou 35 ans au musée donc, de Lausanne, et j'ai découvert le travail d'André Robillard, entre autres, mais j'avais aussi visionné une vidéo, un petit film de l'époque qui était aussi diffusé dans le sein du musée. Vous vous souvenez de ce petit film?
C'est-à-dire, il y en a eu tellement.
Il y en a eu beaucoup.
Ce petit film, j'en sais rien, parce qu'il y a eu plusieurs films sur André. Il y a plusieurs films, notamment des films récents. Il y a un film de Philippe Lespina, qui s'appelle André le Martien, qui est très bien. Il y en a un autre récent, qui est le plus récent, de Henri-François Humbert. Et puis, il y a eu Clovis Prévost, qui est un des grands photographes, qui est le photographe de la Fondation. La Fondation Cartier, non pas Cartier, Saint-Paul-de-Vence, la Fondation...
Meg.
Et qui, lui, s'est intéressé, un des premiers à s'être intéressé, avec Mario Del Curto, à André. Donc il y a eu des photos, il y a eu des films, et il y a même eu des livres, hein, puisqu'il y a plusieurs livres qui ont été faits sur André.
Qu'on peut trouver facilement.
Alors on peut, ça c'est le problème un peu de l'art brut, on trouve jamais si facilement que ça les ouvrages d'art brut, on les trouve souvent dans les lieux d'art brut, on les trouve aussi dans les bonnes librairies. Quand on veut les avoir vraiment, il suffit de les commander. On trouve aussi tout sur Internet.
Oui. Et aussi, André Robillard, on peut le découvrir, hein, je pense à nos auditrices et auditeurs, sur YouTube.
Oh ben, on le découvre partout. On met André Robillard sur... Surtout, sur Internet, on trouve beaucoup de choses, hein, même si si ses productions sont un petit peu à la marge, puisque c'est un artiste quand même qui reste un artiste à la marge.
Oui. Et André Robillard, vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez rencontré et où Alain Moreau?
Ah oui, Alain Moreau, c'est le plus hasard. Je m'en doutais pas. J'ai été surpris parce qu'on ne connaissait pas avant Alain Moreau. Et puis après, je sais pas en quelle année qu'on...
Ça fait une douzaine d'années
qu'on
se connaît.
Je peux pas dire si c'est 5 ou 3, mais toi. Ouais. Et on s'est connus un petit moment déjà. Oui, il y a déjà quelques moments qu'on s'est connus, oui. Oui.
Voilà, c'était 2007, ça fait 12 ou 13 ans. Enfin, oui. Comment c'est connu? Moi, c'est curieux parce que pour moi, c'était...
Je vais te demander, qui
c'est
qui t'a fait connaître
Alors, qui c'est qui m'a fait connaître André Robillard? C'est comme Picasso. C'est-à-dire, je savais que tu étais une sorte de Picasso de l'art brut, que tu existais. Oui. Et donc, je savais même que...
On avait entendu mon nom, peut-être.
J'avais entendu ton nom. Je savais même que tu habitais au centre hospitalier. Oui. Et un jour, une tout penaud, j'ai dit que je vais téléphoner au centre hospitalier. Oui. Et je m'attendais à passer par plein de secrétaires et pourquoi pas par un infirmier, etc. Donc, j'appelle, j'ai dit bonjour d'une façon un peu timide. Est-ce que je peux parler à André Robillard? Et j'étais au standard, et là, personne me dit « Je vous le passe ». Et trois secondes après, j'ai mon lascar qui me dit « Bonjour, comment ça va, Alain ?» Et voilà. C'est le premier contact, il était très chaleureux, très direct, comme toujours avec André.
Vous avez oublié de préciser, je crois que dans ce centre hospitalier, maintenant, il y a une grande fusée d'André Robillard.
Alors, ce n'est pas une fusée, c'est un fusil.
Voilà,
mais il y a des choses partout.
Il fait 7 mètres de long.
Raconte-nous ton fusil, André.
Oui. Eh bien, une fois, j'ai travaillé avec Jean Delaunay, hein, et on a travaillé dans un hangar, à l'hôpital psychiatrique. Eh bien, un grand hangar, qu'on peut travailler, s'installer. Et puis après, il y a une personne qui est venue, avec une personne qui venait de... De Montpellier, exactement ça. Il venait de Montpellier dans l'Hérault, oui. Ah. Et puis on a travaillé ensemble. On a un grand morceau de bois qui est énorme. Hein. Puis on a installé le grand hangar. Puis on a travaillé avec Jean Delaunay. C'était un infirmier. Il travaillait dans les bureaux au centre hospitalier. Il était artiste. Et puis on est eu à contact. Et puis on s'est entendu. Puis on a construit le fusil. On l'a construit sur des machins qu'on posait dessus.
Voilà, donc on peut dire, on peut appeler ça une œuvre monumentale qui fait près de 10 mètres de haut, presque.
Ah oui, elle est assez haut. Oui.
Qui a été installée par une grue. Et c'est André qui a donné les indications pour la fabrication de ce fusil.
En 2013.
Voilà, en 2013. Donc c'est un fusil monumental qui est au cœur de cet hôpital. Mais il y a eu tellement d'autres choses. Ce fusil-là est intéressant.
Ils l'ont posé sur un poteau, mais assez...
Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'en fait, tu as deux lieux principaux, deux musées importants. Le plus important, l'historique, c'est le musée forcément de Lausanne, 70 000 œuvres, etc. Et tu es un des grands artistes, de ce musée. Mais il y a un autre musée important en France, qui est le LAM, à Villeneuve-d'Ascq. C'est un des grands musées de province, où il y a de l'art contemporain, de l'art moderne et de l'art brut. Et là, il y a quasiment une pièce entière qui est dédiée à tes fusils et à tes œuvres. Et juste pour dire aux gens qui iraient actuellement, où il y a une très belle exposition de William Cambridge, il y a aussi une exposition en ce moment qui dure pendant un an espaces qui a été co-réalisé avec Alexis Forestier, qui est un metteur en scène, un autre artiste.
Du spectacle sur la scène.
Voilà, c'est ce que j'allais. Donc le LAM, j'ai vu que vous avez exposé en 2011, Lille Métropole Musée d'Art Moderne à Villeneuve-d'Ascq, et aussi pour revenir à Homo di Lyonnais, Philippe Dereux est aussi exposé et sans doute il fait partie de la collection. Oui, vous avez aussi fait des spectacles dont Changer la vie, avec Alexis Forestier. Alors, donc c'était en quelle année?
Alors, ce qu'il faut...
Vous l'avez tout aussi, tuer la misère, changer la vie et les cratères lunaires. Après ça, oui, ça.
Voilà.
C'est...
Voilà. Juste, André est aussi musicien. Il est aussi comédien. Il a rencontré plein de gens. C'est quelqu'un qui rencontre les gens, qui aime bien rencontrer les gens. Oui. Et il a rencontré Alexis Forestier, qui est un metteur en scène, dont les matériaux sont le théâtre et la musique. Ça tombe bien, parce que André, lui, c'est aussi la musique. Il est musicien autodidacte. Le soir, quand il s'ennuie, il fait de l'harmonica, il joue de l'harmonica, il joue aussi de l'accordéon. Alexis Forestier lui a proposé de jouer dans ses spectacles. Donc, il a écrit un spectacle en pensant à André, et il en a fait trois comme ça.
Ouais, vas-y, Charlotte Manson. Charlotte Manson, elle était hospitalisée et puis c'est elle qui m'a fait connaître Alexis Forestier.
André est dans des spectacles qui sont des spectacles théâtraux et musicaux, des spectacles d'Alexis Forestier. Alexis Forestier, c'est un petit peu l'underground du théâtre contemporain aujourd'hui, mais quand même quelqu'un qu'on peut retrouver dans des grands lieux comme le Théâtre Vidi à Lausanne, qui est une grande institution européenne. Et André, eh bien, il est complètement à son aise parce qu'il a une relation amicale, comme on peut l'avoir, la même chose, si j'ose dire, avec Alexis Forestier. Et puis, il peut jouer de l'harmonie et toutes sortes d'instruments, parce qu'il joue plein. Tu joues plein d'instruments, toi, André.
Oui, j'ai pas mal d'instruments.
Qu'est-ce que tu joues? Tu joues de quoi comme instrument?
Moi, je joue j'ai cinq accordéons chez moi, chromatique et diatonique, allemand et italien. Et puis je joue du violoncelle avec le archet, du banjo américain, de piano, un orgue, deux tambours. Oui, deux tambours et deux guitares sèches. Et 10 harmonicas qui sont différentes, chromatiques et diatoniques.
Voilà. Et tu joues de l'harmonica. On va te proposer avec Christian peut-être de nous faire une petite démonstration là pour le plaisir des oreilles des gens qui nous écoutent.
Mmh. Hein, voilà. Nous vous écoutons.
Vous voyez, c'est un harmonica 6.
Explique ce que c'est que cet harmonica. Voilà. Il est un peu spécial, ton harmonica.
L'harmonica 6 en air, c'est. Ça, c'est machin Frédéric Luce qui me l'a trouvé sur un cerf.
Il a 6.
Il y en a 6 et j'en ai encore 2 à 4. Le même système.
Donc nous vous écoutons, André Robillard.
Vas-y, André.
Et j'ai vu aussi dans une vidéo sur YouTube que vous aviez, vous mettiez pour faire aussi de la musique des cartouches à vos doigts et avec
des cartouches avec un seau, oui.
Voilà.
Avec
un seau en plastique. Ça fait une espèce de caisse de résonance.
Oui. Vous chantiez
c'est
des chansons.
C'est un percussionniste aussi.
Oui. Un Vive le vent, je crois.
Oui,
vous deviez chanter Vive le vent.
Et je chante en même temps, avec les cartouches.
Oui, nous sommes d'accord.
On aurait dû emmener les cartouches.
C'est les cartouches de chasse que j'installe dans les doigts.
Bah ouais, parce que Peut-être qu'on peut juste s'expliquer. Alors, André, en fait, on te connaît beaucoup par tes fusils. On dira tout à l'heure que tu ne fais pas que des fusils, et d'ailleurs que tu as arrêté d'en faire depuis 2 ans, que tu fais des dessins. Mais tu peux peut-être... Alors, c'est difficile parce qu'on est... On est à la radio, donc. Mais tu peux peut-être expliquer comment tu les fabriques, tes fusils. Comment tu fais un fusil, André?
Eh ben, un fusil, c'est que je prends une planche, hein. Après, quand j'ai mis une planche, oui, mais ça là. Hein. Une planche, ben, ce que je fais, je prends un peu et j'inscris les inscriptions.
Oui.
Parce que d'abord l'inscription de ce côté-là comme de l'autre côté. Et puis après...
Ben, attends, André, c'est quoi les inscriptions? Qu'est-ce que tu mets là-bas?
L'inscription, je marque US Air Force, US américain, M16 américain, des inscriptions qui ont existé au moment de la guerre, les noms des fusils, et puis US Air Force, et puis je mets une étoile, et puis je marque US Air Force rapide, et puis après je marque la date, et puis après je mets une étoile, USA. Et bon, après, quand j'ai mis les inscriptions... Eh ben, je marque un numéro, et puis après, quand je vois que c'est complet, eh ben, après, quand c'est de ce côté-là, et après, je tourne le fusil, puis j'en fais autant de l'autre côté. Et puis, je fais des dessins dessus, je dessine. Je fais des renards ou des oiseaux dessus, je mets des oiseaux, puis la crosse.
Et oui. Cette planche, tu l'as découpée
Elle est découpée, oui. Ouais. Et un coup qu'elle est découpée, après, je regarde, il n'y a plus que des mettre des machins de récupération, comme je fais là. Ce qui m'intéresse, elle me dit, bon, bah, ça, je peux le mettre dessus. Puis je regarde, et puis après, je pose un fur et à mesure. Je mets une boîte, puis après, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Et puis, pour compléter les fusils. Et puis, des boîtes de sardines.
Oui, des boîtes de sardines.
Qui sont lavées de l'hôpital psychiatrique.
Et tu les as quoi? Tu les as mangées, non?
Hein, ils sont mangés.
Bah oui.
Mais après, quand c'est ça, je les ai lavés.
Bien
bah
sûr.
Oui, parce qu'il faut les mettre dessus, oui. Comme je fais l'habitude, oui. Et puis, je mets les cartouches aussi. Oui, il y a des cartouches.
Il y a souvent, il y a toujours.
Et puis les canons. Je mets les canons.
Canon.
Alors, je mets toujours les canons avant de. Avant.
Que de la récup. Hein,
de machin de récupération.
Un
canons,
bout de ferraille rond, c'est
oui,
un canon machins, que,
oui.
que.
Et puis après, je mets la croche. Vous voyez, après, c'est à la fin, ça. La croche. Et puis tu vois les trucs, ben, pour compléter le fusil. Quoi,
et comment tu les rassembles, ces machins de récupération? Comment tu rassembles? Qu'est-ce que tu mets pour les rassembler?
Pour les rassembler, je mets du scotch. Des biens d'Italie. Non, qui vient d'électricien plutôt.
Électricien.
Et puis des fois, il arrive que je mets quelques points, des fois. Mmh. Et du scotch qui vient d'électricien, tu sais, qu'on met. Et que je vois des accords comme là, vous voyez, du scotch.
Oui.
Des fois, il y a du bleu, il y a du noir, ça dépend des couleurs.
Mmh. Et après, c'est fini?
Bah, après, c'est complet. Bah.
C'est complet?
Oui, j'ai rien oublié.
Et ces fusils, c'est quoi? C'est des jouets? C'est fait pour.
C'est des fusils inoffensifs.
Pour tuer les gens?
Non, non, c'est des fusils inoffensifs.
Ah oui.
Et qu'on peut que des machins que je fais, c'est pour exposer dans les musées. Des choses qui sont différentes.
Et oui. André Robillard, vous disiez aussi que les fusils, c'était pour tuer la misère.
Ah oui, tuer la misère, oui, c'est Emma, oui.
Oui, hein.
Oui, oui. C'est pour moi, c'est Alexis Porissier qui a donné ces noms-là.
D'accord.
Oui. Bon, et là, il a changé la vie, puis après, les cratères lunaires.
Il voilà, faut expliquer que, en fait, le fait que tu fasses des fusils, que tu sois devenu un artiste reconnu, l'art, ça a tué la misère. Ah, oui. Ça t'a changé la vie complètement. Ça t'a fait être un homme différent. Oui. Tout à l'heure, tu nous racontes...
Parce que je vais vous poser une chose, parce que j'étais comme tout le monde, quand j'étais tout petit, j'aurais jamais pensé un jour que si j'aurais pu devenir artiste. Ça, je ne pouvais pas le terminer, ça. J'aurais pu tomber sur autre chose différent. J'aurais peut-être pu être comme tout le monde, hein, qu'on connaissait pas. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est immunité à moi, quoi. C'est marrant, hein. On a beau dire, j'ai fait des pigistes, elle a fait découvrir quelque chose. Hein. J'aurais été autre chose, ça aurait été différent. Ah ben, j'aurais été moins connu, évidemment, j'aurais pas connu Jean-Dubé bien avant, alors ça, même les médecins, ça c'est pas possible.
Donc Jean-Dubuffet...
Ça m'a changé un peu.
Dis-moi,
Et puis ça m'a fait connaître du monde, évidemment.
Et notamment Jean-Dubuffet. Donc tu l'as rencontré, Jean-Dubuffet?
Ah oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré en 80-82, moi. Jean-Dubuffet, oui. Hein, il était à Paris qu'il était, oui. Et puis ça fait que j'étais à la gare des Aubrais, on m'a téléphoné, et de la gare des Aubrais, j'ai été jusqu'à Austerlitz, puis il y a des secrétaires à Jean Dubuffet qui sont venus me chercher à la gare d'Austerlitz. Parce que Jean Dubuffet, il voulait me rencontrer. Il connaissait mes œuvres, mais il voulait rencontrer moi. Il voulait me rencontrer, il voulait rencontrer la personne, l'artiste. Il était content, puis il m'a expliqué ça. Il m'a emmené là-haut, puis il m'a dit bonjour. Et puis, il m'a dit, j'étais content de vous rencontrer. Oui. Je dis, j'avais parlé de Jean Dubuffet, mais il voulait me rencontrer. Oui, en me disant, il m'a dit, félicité pour les œuvres. Oui, pour les œuvres que j'ai faites. Il voulait connaître mes fusils et puis autre chose. Voilà.
Génial, rencontrer voilà. Jean Dubuffet, ils sont plus nombreux les artistes.
Oui, hein, je crois que vous l'avez rencontré
en ce moment-là.
Jean Dubuffet.
La différence entre toi et lui, c'est que toi, tu es toujours là, André.
Moi, je suis toujours
là. Et en pleine forme.
Oui, vous avez 88 ans.
J'ai eu 88 ans à partir. Ça a commencé le 27 octobre
2019. Tu vas avoir 89 ans cette année.
Là, mes 88 ans, ils sont un peu dépensés par quelques mois là, qui
oui. Bien, bien, ce qui suit, là. Bien sûr.
Eh ben, moi, j'ai encore la santé. Je ne peux pas dire que jusqu'où non, je pourrais peut-être m'arrêter, mais ça continue. Chaque jour qui passe, je suis encore là.
Bien sûr. Et donc maintenant, vous ne faites plus de fusils, mais vous dessinez beaucoup.
Ouais. Je dessine, oui.
Oui. Et vous dessinez quel thème, quoi ?
Des oiseaux, des planètes, des choses différentes, des dinosaures préhistoriques.
Ah oui ?
Oui, oui.
Et des renards, j'allais dire.
Oui, oui. Oui. Ben, c'est bien parce que je fais peut-être plus de fusils, mais j'ai quand même fait des fusils. Mais après, on a découvert autre chose que les gens ne connaissaient pas. C'est pas évident. Hein. Ils sont peut-être contents de connaître autre chose qu'ils ne connaissaient pas.
Bien sûr.
Ben, c'est pas possible. Hein. Un artiste peut faire quelque chose, puis il perd autre chose. Hein.
André, tu fais beaucoup d'oiseaux. Pourquoi tu fais des oiseaux ?
Ben parce que j'ai vécu avec la nature, moi. J'ai toujours aimé la nature quand j'étais jeune. Les oiseaux, les animaux, les chiens, les chats. Ça n'a jamais bougé. Hein. C'est pas parce que j'ai 88 ans. Je me dis, la nature, elle était avant et puis elle ne bouge pas maintenant. Et donc, même si les années passent vite, la nature est toujours là.
Donc, t'aimes la nature, t'as vécu toujours dans la nature.
Oui, oui. Mais, parce que dans la nature, il y a des belles choses quand même.
Et dis-moi, au-dessus de la nature ou dans la nature, il y a aussi les astres, les.
Ah oui, la lune,
parce que c'est ton sujet, là. La lune, Mars, tout ça.
La planète Mars, Jupiter, Neptune, Vénus, Uranus, Saturne, tout ça, ouais. Toutes les planètes différentes, quoi.
Dis donc,
je m'intéresse à l'univers aussi, moi.
Il paraît,
le soleil, tous les étoiles.
Il paraît même que tu parles un peu martien.
Oui, oui.
Tu pourrais pas nous parler un peu martien aux auditeurs, là ?
Oui, oui.
Bravo. Radio B, la radio martienne.
C'est autre chose.
Tu vas boire un petit peu.
C'est une langue qui est différente.
Radio.
Il y a une planète.
Oui, Radio B.
La radio martienne.
Je fais ça quand je fais du spectacle dans le micro.
D'accord. Et vous faites souvent du. Nous vous laissons boire. Vous faites souvent du spectacle, des spectacles ?
Ah ben, je fais du spectacle quand Alexis, il téléphone.
Voilà.
Il me téléphone, mais on va faire du spectacle à Bretz.
D'accord.
Brest.
En Bretagne, ça, oui.
Oui, il fait régulièrement des spectacles. Et puis, tous les deux, on fait un duo. C'est-à-dire, je lui fais raconter son histoire. Vous avez vu que c'était... il suffit juste de lui passer le micro.
C'est rodé.
Et il raconte son histoire. C'est un petit peu rodé. Alors, c'est une rencontre en musique.
C'est-à-dire on s'en va plusieurs jours.
Il raconte son histoire d'artiste, de vie. Et puis, il joue de la musique. Mais différents instruments. Il y a tout un instrumentum, le tarium, qui n'est pas là. Là, on n'a que juste... l'harmonica.
Donc nous pouvons écouter dans certains théâtres André de Robillard avec Alain Moreau.
Alors surtout, moi je suis pas un artiste, hein, j'étais un directeur de théâtre, donc j'ai passé ma vie à accompagner les artistes. Mais là je trouvais que c'était intéressant qu'il raconte son histoire d'artiste et de vie, parce que c'est l'histoire de l'arbutte. Vous avez entendu tout ce qu'il vient de raconter, c'est l'histoire de l'arbutte. Quelqu'un qui va vous parler du Buffet, qui l'a rencontré, qui vous parle de la collection d'arbutte, qui va vous parler aussi du Lam, qui peut vous parler d'autres illustres personnes qui sont malheureusement décédées. Qui sont les personnes fondatrices de l'art brut, c'est extrêmement important. Donc je trouvais intéressant de lui faire raconter ça. Ça a une valeur pédagogique, si je tire, pour mieux comprendre l'art brut. Et quand on rencontre André Robillard, parce que le problème de l'art brut, c'est que les gens ne savent pas trop ce que c'est.
Oui.
Mais quand vous avez rencontré André Robillard, vous savez ce que c'est que l'art brut. Et donc ce contact-là, il est important. C'est une sorte de mémoire de l'art brut vivante.
Oui.
C'est assez génial.
Oui, vous avez raison, hein, puisqu'on confond avec l'art singulier.
Oui, l'art naïf, l'art de tout ce que l'on veut. Et oui, voilà. Lui, c'est un artiste d'art brut, on peut le dire.
Mais avant, on connaissait pas, on parlait pas, on savait pas ce que ça voulait dire, la collection de l'art brut. On connaissait pas ça avant. Et puis, c'est mis Jean Dubuffet, là, il parle de l'art brut maintenant.
Bien sûr.
On avait, dans mon époque, j'entendais pas parler de ça, l'art brut.
Non, non, c'est la création. De Jean Dubuffet, qui a défendu des artistes comme vous.
Oui, oui. Ah. Voilà, c'est ça.
Voilà, donc il y a eu Jean Dubuffet et les autres. Il y a aussi, juste le dire, parce que l'autre lieu important, c'est le LAM à Villeneuve-d'Ascq, qui est un très grand musée et qui a une collection importante. Et une collection qui est à l'origine de cette collection, c'est la collection de La Racine. Et Madeleine Lomène, qui était une figure historique de l'art brut, que André a bien connue, qui a créé une association qui s'appelait La Racine. Et ils ont fait don des 5000 œuvres au musée du LAM à Villeneuve-d'Ascq. Et André est allé inaugurer ce musée. Il y avait Martine Aubry, qui était très contente de le rencontrer.
Madame Lomel, Michel Nedjar et Claire Teller.
J'allais vous parler de Michel Nedjar, qui est aussi au musée de Lausanne.
Voilà. Hein. Alors
vous l'avez rencontré, Michel Nedjar?
Oui.
Bah, c'est un ami.
Je l'avais connu il y a des années, moi.
Oui,
à un moment. Voilà, c'est l'histoire de La Racine, qui est aussi l'histoire de l'art brut, ce qui était un des hauts lieux de l'art brut. C'était une sorte de grosse maison bourgeoise, un peu comme la maison de la collection de l'art brut à Lausanne, qui était donc collection et cette association créée par Madeleine Lomel et puis par Michel Nedjar et par Claire Teller. Donc Madeleine Lomel habite à Gand ou à Liège,
à Gagny.
Claire Teller, elle habite en Belgique.
À Liège.
À Liège. Et Michel Nedjar, qui est l'artiste qu'on connaît, qui est notamment très connu pour ses poupées, qui habite à Paris et qui connaît très bien André. André fait des voyages avec lui, notamment.
Et puis il m'envoie une carte, il m'écrit.
À Cologne, etc. Donc ils se voient assez régulièrement. Et moi, je connais aussi bien, j'aime bien les rencontrer tous les deux.
D'accord. Donc ce lieu, La Racine, était aussi un lieu d'exposition.
C'était un lieu du militantisme en art brut, si j'ose dire, créé par les trois personnes que je viens de citer, malheureusement avec très peu de moyens. Mmh. Et un jour, la sagesse et la rencontre avec la collection, avec le LAM à Villeneuve-d'Ascq a fait que cette collection unique au monde, eh bien, ils ont trouvé sage et intelligent de la confier à un musée qui allait la mettre en valeur. Et ça a donné la collection de l'art brut maintenant qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq où il y a art moderne, art contemporain et art brut.
Et je me souviens aussi d'un autre lieu, je crois, qui s'appelle La Fabuloserie.
La Fabuloserie, c'est un lieu privé qui a été créé donc à Dissy, à côté d'Auxerre, par Alain Bourbonnet, qui a un point commun avec le théâtre, puisque c'était un architecte, il a construit des théâtres, notamment le théâtre de Caen, ça me parle un peu, parce que je suis ancien directeur de théâtre. Mais André y est allé, notamment il est allé récemment, où on a présenté notre duo, d'ailleurs, tous les deux. Il a fait une sorte de résidence où il a créé des fusils, tu te souviens, André?
Oui. Et on avait été aussi à Paris, je crois, à la Saint-Pierre.
Là, le Saint-Pierre.
Voilà. Oui, parce qu'on m'a posé la question, et je voulais vous la poser. Vous avez aussi exposé à la Halle Saint-Pierre.
À la Saint-Pierre,
Qui est un lieu pas que d'art brut.
La Halle Saint-Pierre, c'est un lieu.
Mais d'art singulier.
Essentiellement d'art brut, qui est quand même profondément un lieu d'art brut. Et avec quelques singularités à la marge, mais on peut dire que c'est un lieu d'art brut et qui n'est pas un musée, mais un lieu d'exposition temporaire. Et André a exposé dans le cadre d'expositions montées par des commissaires d'exposition. Mais il a exposé dans le monde entier, et notamment il a exposé avec dans le cadre d'une collection qui s'appelle The Museum of Everything, excusez-moi pour l'anglais. C'est James Brett, qui est un londonien, qui a créé une collection une collection d'art brut étonnante et qui expose dans le monde entier. C'est-à-dire, plutôt que de montrer dans un musée, il réhabilite des lieux. Et il avait fait ça à Paris, pas loin de la Fondation Cartier. Il avait investi une sorte d'ancien lycée et il avait montré des œuvres. Donc il l'a fait à Amsterdam, il le fait dans le monde entier.
Et j'ai exposé
André
aussi.
A exposé avec lui à Amsterdam.
à Cologne, en Allemagne.
Ah oui.
Ça, c'est Sander.
Donc ça, c'est les grandes collections d'art brut. Il y en a d'autres un peu partout. Mais il est bien sûr aussi dans les galeries. Donc il y a la galerie Christian Bertz, qui est la référence en France. Et puis, il y a des galeries dans le monde entier, notamment Suzanne Sander à Cologne.
Suzanne Sander.
Voilà. Donc il est dans les bonnes galeries aussi d'art brut, bien évidemment.
Donc Suzanne Sander, je crois que j'ai vu peut-être une vidéo où, quand vous étiez allé à Cologne, vous étiez aussi promené dans les zoos et vous avez découvert un animal fabuleux qui est le orang-outan. Et vous en parlez.
Oui, on l'a rencontré, un orang-outan.
Oui, hein, vous étiez allé dans ce parc.
On peut voir cet animal, lui.
Ouais, il a fait,
Que vous ne connaissiez pas, cet animal.
Que je ne connaissais pas avant.
Voilà.
Il a fait plein de voyages, puis il est allé...
Suzanne Sander m'a expliqué tout ça.
Oui, bien sûr, oui.
Il est allé aussi au Gugging, qui est une institution en Autriche.
Avec Eric Mona.
Voilà, un artiste qui s'appelle Eric Mona, qui l'a fait rencontrer Vala, qui est un des grands artistes d'art brut. Artiste, il y a des photos, d'ailleurs, qui immortalisent la rencontre.
Le Gugging dont vous parlez, c'est ce lieu qui est au-dessus de Vienne et qui reçoit beaucoup de personnes.
En fait, un hôpital psychiatrique qui a créé sa propre galerie et son musée. Et il y a là des artistes majeurs de l'art brut. Mmh. Et André est allé là, mais il est allé aussi dans tellement d'endroits.
Donc, vous êtes souvent invité.
Oui, souvent. Hein? Eh bien, ça me permet de ne pas être tout seul.
Bien sûr.
Oui. Ça, c'est pas mal. Ça m'a découvert un peu ma vie.
Bien sûr, ça l'a transformé.
Ah oui, l'a transformé.
Et pour revenir au départ, je crois qu'au sein de l'hôpital, vous avez aussi eu un appartement pour vous tout seul.
Oui, un appartement, oui. Dans l'hôpital psychiatrique, oui.
Alors, tu as habité dans différents endroits dans cet hôpital. Quand tu étais malade, tu étais plutôt dans une chambre.
Chambre, oui.
Mais après, on t'a...
J'ai pensé auxiliaire après.
Voilà, auxiliaire, ça veut dire que tu étais quelqu'un comme tout le monde qui travaillait, qui commençait le matin à 8h, qui faisait 35 heures ou peut-être un peu plus à l'époque. Et là, on t'a...
D'un pavillon, ils m'ont mis ailleurs.
On t'a mis dans une espèce de pavillon où tu avais une sorte d'atelier, appartement. Oui. Et aujourd'hui, il habite dans une petite maison. Dans une petite maison à l'intérieur de l'hôpital. Il est complètement indépendant, il rentre et sort comme il veut.
C'est comme une personne qui a une maison
libre. Et quelqu'un de libre, heureusement que les artistes...
Rien à voir avec le centre hospitalier, ceux qui sont hospitaliers.
Rien à voir, mais aussi à voir aussi, parce que il fait partie des...
Le
tourneau, c'est la personne qui est responsable du service des adultes protégés. Il est sous curatelle, mais il vit en toute liberté dans ce lieu.
Tout à fait. Et il y a des personnes qui vous téléphonent, qui viennent rencontrer.
Ah, il ne me téléphone pas, lui. Oui. Ah oui, j'entends le téléphone qui sonne, j'ai un téléphone fixe, moi. Quand il y a quelqu'un, quand ça sonne, je décroche le téléphone. Alors, il m'appelle, et puis il y a d'autres qui m'appellent aussi.
On peut vous joindre.
Il m'appelle le jour que pour me joindre. Ouais. Parce que si j'étais pas là, il viendrait de loin. Puis
Faut fixer un rendez-vous.
Une personne vient, mettons, le jeudi ou le vendredi, et ben, je sais que la personne y vient, je commence à me préparer. Oui.
Alors, on vient de très loin voir André, parce que de temps en temps il me dit « Oh, il y a les Russes qui sont là !»
Les Russes.
Oui, tu avais des Russes qui étaient chez toi. Donc, ou alors, il y a le photographe, là, et c'était Télérama. Ou Libé.
Et il arrive d'abord, on me téléphone chez moi parce que je ne suis pas là. Admettons, comme je suis là, alors on téléphone. Ça, c'est pas évident.
Et pour revenir à Alain Moreau, qui nous vient de Villefranche-sur-Saône, une ville qu'il a investie, vous avez fait une grande exposition à Villefranche, il y a quelques années.
Oui, on a fait une exposition, c'était un hommage à André Robillard, c'était il y a 4 ou 5 ans. C'était il y a 4-5 ans, et donc cette exposition, c'était une exposition des œuvres, mais il y avait aussi le spectacle avec Alexis Forestier, et il y avait les films qui ont été présentés, hein. André donc, et les Martiens, et on a fait aussi d'autres expositions ailleurs.
Comme c'est lui qui est de Bordeaux, là,
Philippe Espinel. de Philippe Lespinasse.
Oui.
Et donc, j'ai eu le plaisir aussi de faire des expositions avec André à Marseille, à la Criée, au Théâtre National de la Criée, et puis dans d'autres endroits. Et là, on va faire une exposition à Chambéry, à la scène nationale de Chambéry, à Malraux, donc au Théâtre scène nationale de Chambéry, au mois de novembre, décembre. On la fera en quelque sorte en résonance avec une grande exposition qui sera présentée au Musée des Beaux-Arts sur les peintres spirites, notamment Le Sage et puis Crépin. Donc c'est une exposition qui a été présentée au LAM à Villeneuve-d'Ascq et qui a plusieurs coproducteurs, dont le Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Et on présentera donc je présenterai des œuvres d'André et on fera le duo, et il y aura aussi pas mal de choses qui seront, il y aura certainement une conférence présentée par Sarah Lombardi sur l'histoire de l'art brut, et on fera cette exposition qui pour moi est importante. Et puis toutes les occasions sont bonnes de présenter le travail d'André. Je continuerai à le défendre. Nous qui avons, moi qui ai créé une association qui s'appelle Arbrut en compagnie.
Donc nous pouvons en parler de votre association.
On peut en dire deux mots. Oui, c'est une association pour valoriser l'art brut. Donc j'ai fait on a fait une exposition importante avec quelques 250 œuvres là dans Villefranche, dans 7 lieux publics, avec des artistes handicapés qui venaient de Bruxelles. Des artistes belges. Donc on continue cette association à valoriser l'art brut à travers des expositions, mais à travers aussi des conférences, des rencontres, des projections de films et plein d'autres manifestations, avec aussi l'objectif un jour de créer un lieu permanent. Je ne sais pas si on peut appeler ça un musée, une fondation. Donc cette association existe depuis très peu de temps, depuis 9 mois, et elle développe son projet à partir du fonds qui est un fonds d'œuvres qui m'appartient, dans lequel il y a évidemment beaucoup d'œuvres d'André Robillard. Donc si on est intéressé par cette association, on peut envoyer des mails à arbrut@gmail.com pour nous contacter. On peut adhérer à cette association.
Oui, bien sûr.
Voilà, cette association est très active, très vivante. Elle est à Villefranche-sur-Saône. Elle s'y sent très bien, mais elle développe son projet. Là, on voudra bien les accueillir dans toute la France. Plusieurs manifestations organisées pour l'instant.
Mais par exemple, avoir un contact avec Culture Nomade, qui fait un travail auprès des artistes au CPA à Bourg-en-Bresse.
Voilà, donc nous on est intéressés effectivement par des partenariats, pour avoir des collaborations, des rencontres avec plein de structures. On en a déjà avec pas mal de partenaires, mais on est ouvert à toute discussion avec notamment des associations locales.
Ouais. La ferme du Vinatier aussi, où il y a beaucoup d'expositions, semble-t-il.
Mais il y a beaucoup d'endroits à travers ce qui se passe. Juste, c'est une parenthèse, mais on reviendra à André, parce que c'est quand même le sujet. Ce qui se passe, sont développés depuis une vingtaine d'années, des ateliers qui sont des ateliers ouverts aux artistes en situation de handicap, qui sont des créateurs comme tout le monde, si j'ose dire, et qui sont à l'intérieur de très grandes institutions, et on a créé là des ateliers à l'image du Gugging, l'atelier du Gugging à côté de Vienne. Il y en a beaucoup en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a dans le monde entier, il y en a évidemment aux États-Unis, et c'est aussi mon sujet. Moi, je valorise ces artistes, et j'ai présenté l'exposition à Villefranche à partir d'œuvres d'artistes handicapés, et j'ai l'intention de continuer. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, notamment à Lyon et ailleurs, à partir des œuvres de ces artistes en situation de handicap.
Bien sûr. André, donc vous êtes sur Villefranche pour une dizaine de jours.
Oui, oui.
Et donc au hangar 717, vous allez dimanche, je crois.
Il y a un petit moment sympa.
Rencontrer vos amis.
Les adhérents de l'association. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est à 11h au hangar 717. Il y aura une petite présentation de notre programme de l'année prochaine, où on va faire des petites choses sympathiques, voyages, rencontres, expositions et plein d'autres choses. Et puis André nous fera jouera un petit peu d'harmonica, et puis il parlera un petit peu de son travail, puis on boira un coup. C'est un moment simple.
Et puis chaleureux. Parler martien en même temps.
Vous allez parler martien aussi.
Oui, bien sûr.
Donc, quand vous parlez martien, vous écrivez vos les mots.
Ah oui. Oui, j'écris, oui.
Vous les écrivez.
Oui, oui. Mmh. Et puis je parle martien parce que c'est comme si je découvrais par moi-même une planète.
Oui.
C'est pas oui, de l'univers quoi.
Oui.
C'est marrant. Hein. Oui, moi je m'intéresse à ce qu'il y a sur notre planète. Puis j'ai l'impression de penser à d'autres planètes là-haut. Mmh. Oui, ça c'est.
Il faut que tu expliques aux gens, oui. André, que tu fais beaucoup de dessins de planètes.
Ah oui,
énormément.
Oui. Ah oui, ah oui. Ben, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai beaucoup l'univers, moi. Pourtant, c'est là-haut, les étoiles.
Oui.
Même quand j'étais jeune, le soleil, tout ça, que ça n'a jamais bougé. Malgré que j'en ai pensé vite, c'est toujours là. Quoi.
Oui.
C'est marrant.
Et vous aimez regarder la nature, les étoiles,
Le
ciel.
Oui. Oui, oui. Même si les années, on a beau dire qu'on est en 2020, ben, toutes les années, on pensait, c'est toujours le même, au même système. Quoi.
Oui, oui.
Ben, toujours, c'est toujours là, quoi, ça ne bouge pas. On pense des fois une bonne idée, mais c'est pas mal.
Donc il y a les étoiles, mais il y a plein d'autres.
Il y a la comète aussi, la comète Halley, la comète Albop.
Oui.
Il oui.
y a plein d'autres sujets avec le avec alors André a l'art aussi de faire des dessins sur tout ce qui l'impressionne. Et par exemple les dinosaures.
Oui. Ah, je fais des dinosaures parce que j'ai entendu parler de ça. Il y avait 500 millions d'années. Oui. Et alors rien qu'en parlant, ça m'a donné l'idée de faire des dessins.
Oui.
Oui, c'est marrant.
Et
avant nous.
Et André Robillard, pour les dinosaures, donc vous regardez des livres, des émissions, des films.
Ils vont voir ça des fois à la télévision.
Voilà.
Les camps là, ils vont voir la forme des animaux. Ils vont voir des fois à la télé ça, les machins d'animaux. Oui.
Oui. Donc vous regardez et après vous dessinez.
Oui, voilà. Mmh. La forme des animaux, oui, qui sont différents. Oui.
Et puis quand même, il faut dire aux gens que t'as un sujet important. Ton sujet pour toi de prédilection, ce que tu aimes bien dessiner.
Les serpents, les cobras.
Ouais, les serpents, les cobras, ça c'est important.
Oui, oui, oui.
Et tu rajoutes d'ailleurs le cobra indien.
Le cobra indien.
Ah, ouais, voilà. Mais aussi, qu'est-ce que tu dessines souvent aussi ? Qu'est-ce que tu as oublié là de nous dire ? Tu dessines le paon.
Le paon indien.
Le paon indien.
Avec la roue, qui fait la roue.
Ah oui.
Voilà, donc, pourquoi le paon ?
Pourquoi indien ? Pourquoi le paon indien est
Une fois, ils pensaient voir ça à la télé, qu'il y avait des paons indiens là-haut en Inde.
Oui.
C'est ça qu'ils ont fait voir une fois à la télé, ça.
Mm.
Ils dessinent un paon indien, il y en a en France aussi, mais on pense à un paon indien.
Bah, le fait que ça soit très loin, que tu ne connaisses pas, tout ça, ça t'impressionne, et ça, tu trouves ça merveilleux, peut-être, le paon indien. Un paon, c'est
déjà
beau.
Même si je trouve des animaux assez loin, mais ça se voit en film n'importe où, il y a des animaux, quoi.
Oui, oui.
Ben, voilà. Même si c'est des animaux différents.
Et t'aimes bien mettre un petit peu une localisation. Par exemple, tu fais le renard, mais c'est le renard de la forêt d'Orléans.
Le renard de la forêt d'Orléans.
Oui, ça je l'ai lu. Hein, puisque vous promeniez dans cette forêt d'Orléans.
La forêt des renards, oui.
Hein, il a travaillé.
J'en dessine beaucoup les renards.
André, tu as travaillé pendant plus d'une dizaine d'années le long de la forêt quand tu étais.
Oui.
Parce que c'est.
Il y avait
y a une forêt à l'intérieur de cet énorme hôpital, il y a une forêt. Et donc lui travaillait la station d'épuration le long de la forêt. Et vous voyez des renards.
Il y avait des renards, des cerfs, des chevreuils, des sangliers, des animaux différents. Quoi.
Oui. Pour terminer, si vous le voulez, vous voulez bien nous rejouer un petit air d'harmonica.
Oui.
Et donc, Alain Moreau.
Je vais jouer la jambe bleue, moi.
Nous vous remercions d'être venu.
Merci de nous
avoir. Et nous écoutons, André.
André Robillard, c'est la fête. Hein.
Voilà. Nous vous écoutons, André. Et nous finissons.
Et c'est drôle, dans ma nature, moi. C'est marrant, je me parle partout, dans toute la distance.
Mmh.
Et que, sitôt que j'aime quelque chose, c'est comme si j'étais attaché à ce que j'aimais.
Bien sûr.
Je ne me trompe pas là-dessus. Hein.
Mmh.
Hein
bah oui.
T'es un passionné, André.
Ouais.
Radio B, les bonnes ondes.